France Culture.
France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Aujourd'hui, 10 mars, des syndicats et des personnels d'université ont appelé à se mobiliser pour dénoncer le sous-financement chronique dont souffre l'université française. Depuis plusieurs années, enseignants, chercheurs et étudiants alertent sur la dégradation des conditions d'enseignement et de recherche, alors même que le nombre d'étudiants, lui, continue d'augmenter. Mais alors, d'où viennent les financements des universités et comment sont-ils répartis? Certaines universités, notamment parisiennes, sont-elles mieux dotées que d'autres? L'égalité entre universités, en somme longtemps présentée comme un principe central, existe-t-elle encore aujourd'hui? Une invitée ce soir pour nous éclairer, Christine Musselin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directrice de recherche CNRS émérite au Centre des sociologies des organisations à Sciences Po. Je cite deux de vos ouvrages, La longue marche des universités françaises et La grande course des universités, les deux aux presses de Sciences Po. Merci d'être avec nous ce soir dans Question du soir.
Les présidents d'universités alertent sous le sous-financement chronique des universités depuis des mois, que ce soit France Université, l'ensemble de nos collègues. Moi, déjà, il y a 2 ans sur votre antenne, j'avais dit les universités sont à l'os. Il faut aussi à la fois comprendre ce paradoxe, c'est que nous arrivons à maintenir nos missions de service public, mais dans le même temps, nous sommes en déficit et nous atteignons un point de rupture. C'est un vrai point d'interrogation, ça veut dire accueillir moins d'étudiants, point d'interrogation, ça veut dire réduire le nombre d'heures de cours, point d'interrogation, c'est pas du tout ce que l'on souhaite. Le service public d'enseignement supérieur et la recherche fait le job, je tiens à le dire. Nous insérons professionnellement nos étudiants, nous les accueillons, nous les portons. Ça tient sur la bonne volonté, sur le dévouement des personnels. Et là, il y a un point de rupture, de fatigue. Il faut se rappeler, on a la mémoire courte, mais les années Covid ont été très difficiles. Il a fallu beaucoup d'investissements, de transformation sur nos enseignements aussi à ces périodes-là. Et là, on est en bout de course.
Christine Nolloduc, présidente de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, elle était l'invitée ce matin à 6h20 sur France Inter, Christine Musselin. Sur cette notion de point de rupture, c'est peut-être une notion d'ailleurs que l'on entend depuis plusieurs années. Est-ce que là on atteint véritablement cette fois-ci le point de rupture?
Alors c'est difficile à dire, le point de rupture, on ne sait jamais exactement quand les choses craquent.
C'est le problème.
En tous les cas, il me semble que le mot vraiment important à retenir, c'est peut-être le mot chronique, c'est-à-dire déficit chronique. Et c'est vrai qu'il y a une accumulation de déficits depuis plusieurs années, d'un manque de moyens. Et quand je dis plusieurs années, je devrais dire plusieurs décennies, c'est pas une question d'années, ça se compte en dizaines d'années.
Un manque de moyens qui se traduit de quelle façon? Au fond, on a des tendances contraires. D'un côté, on a une augmentation continue du nombre d'élèves. Dans le même temps, les moyens diminuent de plus en plus. Au fond, on a donc un niveau budgétaire par tête d'étudiants qui diminue. Est-ce que c'est cela le problème fondamental, le problème premier?
Alors, ça, c'est un très gros problème, puisque quand vous avez une augmentation du nombre d'étudiants, si vous n'avez pas les moyens de les accueillir, bien évidemment, ça pose un problème structurel. Et effectivement, depuis 2010, La dépense moyenne par étudiant, ce qu'on appelle la subvention pour charges de service public qui est versée par étudiant, diminue, alors que le nombre d'étudiants augmente. Donc là, il y a un véritable problème, avec en plus des écarts assez forts selon les universités, selon qu'elles sont plutôt en lettres et sciences humaines, ou bien plutôt en sciences, ça va créer aussi des écarts très importants entre elles.
La journée d'aujourd'hui réunissait l'UNSA, la CFDT, la FSU, la CGT, Sud et des organisations étudiantes. Est-ce que l'on peut dresser un bilan de cette journée? Est-ce qu'elle a été suivie par les chercheurs, par les enseignants, par les élèves? Est-ce que vous le savez?
Non, je n'ai pas d'informations. J'ai cherché à en avoir avant de venir, mais je n'ai pas trouvé d'informations.
Il faudra faire, ce bilan. On a parlé de l'enseignement, Christine Musselin. Il faut également parler des dépenses de recherche. Elles sont corrélées. Qu'est-ce que l'on peut dire sur le temps tendanciel justement qui préside à ces dépenses-là?
Alors justement, je parlais des étudiants parce que ce sont les budgets qui ont été le plus touchés par les diminutions budgétaires. Sur la recherche, il y a quand même eu de très forts investissements à travers les différents appels à projets qui ont été gérés d'abord par le commissariat général à l'investissement, puis par le SGPI, secrétariat général pour l'investissement, donc des appels à projets très sélectifs, nationaux, qui ont permis d'allouer des budgets en général plutôt orienté recherche que vers qu'enseignement.
Une autre difficulté rencontrée par ces universités, on a entendu évidemment la période Covid qui a été extrêmement complexe pour les établissements, pour les étudiants. Il faut mentionner aussi le contexte économique et notamment l'inflation qui a un impact sur les coûts fixes de ces établissements.
Oui, j'aurais plutôt pensé à l'inflation pour les coûts budgétaires. Alors c'est vrai que le Covid a entraîné des frais supplémentaires. On a mobilisé des budgets particuliers sur cette période-là, mais la période d'inflation qui a suivi a vraiment mis les établissements dans des situations extrêmement difficiles pour la plupart, et en particulier ceux qui n'ont peut-être pas bénéficié autant que les autres des projets sélectifs dont je parlais précédemment.
Vous pensez notamment à quel type d'université, à quelles universités, comment justement ces inégalités se manifestent-elles sur le territoire ?
Alors, en fait, on peut dire qu'aujourd'hui, il y a un petit peu trois catégories d'universités. Celles qu'on appelle les IDEX, donc les initiatives d'excellence, qui ont bénéficié de financements supplémentaires et qui en bénéficient dans la très longue durée, puisque celles qui ont été labellisées IDEX vont obtenir des moyens supplémentaires de manière définitive. Tout peut s'arrêter dans la vie, mais normalement, c'est pour toujours.
Les trouve-t-on majoritairement dans les grandes villes, ou là aussi c'est une fausse idée?
Majoritairement. Oui, bien sûr. Dans les métropoles, bien sûr. Donc c'est Bordeaux, c'est Marseille, il y en a plusieurs à Paris, c'est Strasbourg, on les trouve dans des grosses métropoles. Et puis il y a une deuxième catégorie qui sont les ICIT. Donc on a relancé un projet très sélectif pour identifier des universités d'excellence, mais cette fois-ci peut-être avec des excellences plus centré sur un sujet particulier de recherche. Et là aussi, on les trouve plutôt dans des grandes villes. Et ensuite, il y a ce que j'appellerais les autres universités. Celles sur lesquelles...
C'est une catégorie en soi.
C'est une catégorie qui n'a pas de nom. Le ministère n'a jamais vraiment donné de nom à ces universités, là. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas non plus les qualifier. Et souvent, ce sont des universités qui ont parfois bénéficié de certains des appels à projets, parce qu'il y a eu tellement d'appels à projets que la plupart des établissements ont eu quelque chose. Mais il y a eu quand même des concentrations sur un certain nombre d'établissements, et en particulier les IDEX et les ICIT.
Si l'on tente de détailler avec vous, Christine Musselin, les sources, les origines de ces budgets alloués aux universités françaises, aux établissements dont nous parlons, d'où viennent ces budgets ? Il y a d'abord les allocations données par le ministère lui-même, d'une part, et ensuite différents appels à projets. Comment l'un et l'autre s'articulent ?
Alors, il y a donc ce qu'on appelle la subvention pour charges de service public, qui est ce qui vient du ministère et qui va être attribué à tous les établissements. Ça, c'est ce qui est distribué et attribué donc par le ministère. Il y a ensuite tous les appels à projets qui viennent financer et abonder donc le budget des universités. Et on a environ 38% des budgets des universités qui est financé par ces appels, par ces financements extérieurs qu'on appelle des ressources propres. Environ 38%. Ce qui est important peut-être de comprendre, c'est que actuellement il y a deux moyens finalement d'allouer de l'argent aux universités. Il y a bien sûr le ministère, mais il y a aussi ce que je nommais tout à l'heure, le SGPI, qui, dans le cadre de ce qui s'appelle aujourd'hui le programme France 2030, alloue aussi des moyens supplémentaires. Donc, on parle parfois du ministère de l'ordinaire, le ministère de l'enseignement supérieur, puis le ministère de l'extraordinaire qui va gérer les budgets supplémentaires, mais qui sont attribués sur des bases très compétitives.
On a parlé de ces difficultés budgétaires, structurelles, latentes que rencontraient les universités françaises. Comment cela se traduit-il d'une manière très concrète, tangible, dans l'accueil des étudiants, dans la façon qu'ils ont de recevoir, d'être accueillis pour leurs cours, dans la manière aussi que les chercheurs, que les enseignants ont de prodiguer leurs classes ?
Ça veut dire que vous avez plus de monde dans les classes, ou bien vous réduisez, comme le disait la présidente de Paris 1 tout à l'heure, vous réduisez le nombre de cours. Donc, quelque part, vous réduisez la qualité de l'enseignement. Vous ne pouvez pas tellement jouer sur beaucoup d'autres choses. Il faut savoir aussi que ce ne sont pas les universités qui déterminent leur capacité d'accueil. C'est négocié tous les ans avec les rectorats qui vont déterminer la capacité d'accueil des universités. Donc, pour l'instant, une université ne peut pas dire « moi, j'ai pas les moyens d'accueillir autant d'étudiants, donc on va réduire ma capacité d'accueil ». Donc, ce qui se passe, en fait, c'est qu'elle est obligée d'accueillir un certain nombre d'étudiants, et comme elle a moins de moyens, elle a moins de moyens par étudiant. Donc, vous réduisez le nombre de cours, vous réduisez la qualité des cours, oui.
Je vous cite Christine Musselin, vous écrivez « Depuis très longtemps, l'université française est décrite comme en crise et son déclin inéluctable, quant à lui, était régulièrement annoncé ». C'est cela aussi, il y a une forme, dans le discours qui enserre, qui entoure l'université française, il y a une forme de fatalité. Ces établissements seraient tout le temps dirigés vers... ils iraient tout le temps dans le mur.
Moi, ça m'avait fortement surprise quand j'ai commencé à travailler sur les universités. Il y a très longtemps, c'était pour ma thèse. J'avais regardé les journaux, les articles sortis dans la presse, à peu près depuis le début des années 60, vous voyez, pour avoir une petite idée de ce milieu. Mm-hmm. Et ce qui m'avait frappé, effectivement, c'est que continuellement, les universités étaient présentées comme étant en crise.
Déjà dans les années 60?
Oui, bien sûr, bien sûr. Il faut savoir que les années 60, c'est l'époque de la première massification. Donc, le moment où le nombre de bacheliers commence à croître de manière très, très forte. Et donc là, première période de massification. Deuxième période de massification, c'est celle des années 88 à 95. À nouveau, une très forte croissance du nombre d'étudiants. Et ce sont les universités qui les absorbent, pas les grandes écoles. Donc l'université française, moi, souvent, je trouve qu'elle est décriée à tort parce qu'elle a fait des choses formidables dans les conditions dans lesquelles elle a accueilli un nombre considérable d'étudiants supplémentaires.
Je voudrais qu'on fasse, grâce à vous, de l'histoire et que l'on revienne peut-être sur l'un des principes originels qui présidait à la structuration de ce secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche, et notamment le principe d'équivalence entre établissements. Au fond, c'était l'idée que tous les établissements devaient pouvoir délivrer les mêmes diplômes.
Tous les établissements universitaires. Le principe d'équivalence, il valait pour les universités, pour le secteur universitaire.
C'est deux dont on parle,
pas pour les grandes écoles,
bien sûr,
c'est
bien
ça.
Sûr.
Donc ça, c'est une première chose, parce que ça crée quand même une différence assez forte dans le système d'enseignement supérieur français. Mais effectivement, ce qui prévalait jusqu'à présent, enfin jusqu'à récemment, c'était un triple principe d'équivalence, à la fois qui disait, ou en tous les cas qui souhaitait obtenir que tous les établissements soient équivalents les uns aux autres, c'est le premier principe. Deuxième principe, tous les diplômes étaient équivalents les uns aux autres, donc un diplôme obtenu à tel endroit était équivalent à un diplôme obtenu à un autre endroit. Et puis, il y avait aussi une équivalence entre les enseignants-chercheurs. Être un prof de tel niveau à tel endroit était équivalent à être prof de tel niveau à un autre endroit. Ce sont ces principes-là qui ont été effectivement remis en question à partir du milieu des années 2000, je dirais.
Avant de revenir sur ce milieu, sur ce mi-temps des années 2000, est-ce que déjà dans les années 60-70, lorsque l'on mettait en avant ce principe-là, ce principe d'équivalence, est-ce que dans les faits, est-ce qu'il était atteint? Est-ce qu'un diplôme obtenu à Rennes équivalait à un diplôme obtenu à Paris? On sait bien que non.
Alors, le principe d'équivalence, c'est bien un principe, il n'y avait pas de réalité. Mais ce qui change aujourd'hui, c'est que par le passé, ce principe, on essayait de l'atteindre malgré tout. Donc, en tous les cas, dans le discours des ministres de l'enseignement supérieur, en particulier dans les années 80-90, qui sont les périodes sur lesquelles j'ai le plus travaillé, il y avait toujours un discours de rattrapage. L'idée que, certes, il y avait des universités plus jeunes qui étaient moins financées que les autres, mais qu'il fallait se débrouiller pour leur permettre de rattraper leur retard budgétaire. C'est ce discours-là aussi qui a disparu.
Ce discours-là qui s'articulait par ailleurs avec une logique d'aménagement du territoire, de démocratisation plus large de l'enseignement supérieur. C'était une politique globale qui dépassait en fait l'enseignement sup et la recherche, comme on dit.
Ah oui, tout à fait. Il y avait aussi une logique d'aménagement du territoire derrière et qu'on pouvait lire à travers les implantations universitaires qui se sont développées notamment dans les années 60.
J'en viens donc, comme vous le mentionniez, Christine Musselin, à ce mi-temps des années 2000. Qu'est-ce qui fait que, peu à peu, les choses se retournent, que ce principe d'équivalence, au moins dans le discours, tend à s'effriter?
Alors déjà, c'était un discours qui était critiqué avant le milieu des années 2000. C'est plutôt la domination d'un nouveau discours qui apparaît au milieu des années 2000, un discours qui était déjà présent avec des personnes qui souvent annonçaient le déclin de la France et qui disaient on ne pourra pas continuer comme on le fait maintenant. Si on reste sur ce principe d'équivalence, on va avoir un déclin de la présence scientifique de la France, donc il faut repérer les meilleurs et financer plus les meilleurs. Voilà, ça existait déjà. Et il y a effectivement peut-être le déclic quand même des premiers classements de Shanghai à partir de 2003, où la France se rend compte qu'elle n'est pas dans le classement. Donc ça a encore encourager ce discours-là et ça lui a permis de prendre un peu plus d'assises. Et puis c'est un discours qu'on rencontre aussi à l'étranger. C'est pas propre à la France. Au milieu des années 2000, l'Allemagne commence à mettre en place une politique dite pour l'excellence et à sélectionner des universités et à mettre plus d'argent sur des universités d'excellence. Qui s'appellent pas non plus, on les appelle pas universités d'excellence pour ne pas froisser personne, mais c'est exactement ça le principe. Donc voilà, je pense qu'il y a eu plusieurs éléments qui ont convergé et qui ont permis à ce discours sur la performance, sur la différenciation, de prendre le pas sur le discours du rattrapage.
Je reviens un instant sur l'un de ces éléments que vous avez décrit, le classement de Shanghai d'une façon générale. D'ailleurs, l'émergence de ces classements internationaux repris d'une manière régulière par la presse, par nos ministres aussi de l'enseignement supérieur et de la recherche, ont-ils permis une pression politique pour transformer ce système au-delà justement d'un changement de discours ?
En tous les cas, ça a été utilisé pour justement appuyer ce changement de discours et pour le justifier, pour le légitimer. Faut pas oublier que au milieu des années 2000, il y avait quand même un discours qui récurrent sur la trop petite taille des universités françaises, le fait qu'elles n'étaient pas visibles à l'international, qu'il fallait qu'elles soient donc de taille plus importante pour qu'on les voit plus à l'international. Et ça a entraîné un certain nombre de décisions comme la création de ce qu'on appelait les presses à l'époque, des pôles de recherche et d'enseignement supérieur qui visaient à regrouper sur un même territoire les établissements de manière justement à atteindre ce qu'on appelait la taille critique. Moi, j'ai jamais su exactement ce que c'était que la taille critique, mais il y avait toujours ce discours autour de la taille critique.
Je voudrais vous faire entendre une archive de 2007, la voix de la ministre de l'enseignement supérieur d'alors, Valérie Pécresse, qui défendait la loi LRU. On va y revenir.
C'est quoi l'objectif du texte ? C'est de tout simplifier. On a des conseils d'administration qui sont à 60 membres. On les passe entre 20 et 30. On a un an et demi pour recruter un enseignant dans l'université française. On passe à 3-4 mois. Donc vous voyez, tout ça, on débloque. C'est un outil pour faire la grande réforme de l'université qui va ensuite suivre avec les questions de la condition de vie étudiante, de la réussite au diplôme et puis la question de l'insertion professionnelle que nous avons intégrée dans le texte comme une mission de l'université. Moi, je me suis sentue pleinement soutenue par le président dans toutes les propositions que je lui ai faites. La première, c'était de dire que toutes les universités auront le droit à l'autonomie d'ici 5 ans. Et il n'y aura pas d'université à deux vitesses. Il n'y aura pas d'universités qui seront laissées pour compte. La deuxième chose, c'était de lui proposer que, dans le cadre du chantier réussir la licence, on parle aussi du master, et qu'on n'en parle pas dans cette loi pour pas brouiller les messages. Et la troisième chose, c'était le conseil d'administration avec un peu plus de souplesse.
La loi LRU, hein, on le rappelle, c'est la loi relative aux libertés et responsabilités des universités. Quelle était au fond, Christine Musselin, la philosophie sous-jacente à la notion d'autonomie qui a été mise en avant par Valérie Pécresse en 2007 ?
Alors effectivement, on parle beaucoup d'autonomie des universités. Personnellement, quand je lis la LRU, mon réflexe a été de me dire mais finalement, c'est une loi pour l'autonomie des présidents d'université plus que pour les universités. L'idée, c'est vraiment de renforcer, c'est en tous les cas comme ça que je lis cette loi, de renforcer les possibilités d'action des présidents d'université, de renforcer la gouvernance des universités. Là aussi, quelque chose qu'on retrouve dans tous les pays en Europe à la même époque. Je trouve intéressant ce passage que vous venez de nous faire entendre. Parce que moi, c'est pas ce que je retiens véritablement en fait de la LRU. Il me semble que le point vraiment important de la LRU, plus que de réduire la taille du conseil d'administration, ça a été ce qui s'est passé à côté de la LRU et qui s'appelle les responsabilités et compétences élargies, c'est-à-dire le fait que les universités françaises ont eu la possibilité, à partir de la LRU, de gérer leur masse salariale. Jusqu'à la LRU, les universités ne gèrent pas de masse salariale. Elles gèrent uniquement un budget de fonctionnement. À partir de la LRU, elles ont la possibilité, et ça s'est fait graduellement au fil des années, de gérer leur masse salariale. Et donc, leur budget s'est trouvé multiplié par 3 ou 4 sur la période. Il a fallu faire croître en compétences et en nombre les services centraux des universités pour gérer ces nouvelles compétences sur la masse salariale. Et finalement, ça a donné plus d'autonomie aux universités en leur permettant de gérer leurs postes et de gérer leur masse salariale. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, avec des budgets qui sont de plus en plus restreints, ça leur donne surtout la possibilité de gérer la pénurie.
Il y a une autre notion qui était au cœur du discours de Valérie Pécresse, c'est la notion d'insertion professionnelle que l'on retrouve là aussi énormément dans les discours liés à l'enseignement supérieur et la recherche. L'insertion professionnelle est devenue, grâce à cette loi de 2007, une mission de l'université. Qu'est-ce que cela a changé là aussi, philosophiquement d'abord et puis d'une manière tangible ensuite ?
Je pense que les choses ont changé bien avant, en fait. Alors là, il y a toute
consacré
une histoire.
Un mouvement,
oui,
alors.
Voilà, ça vient plus consacrer. D'ailleurs, souvent, les lois viennent consacrer un mouvement plus qu'elles ne changent véritablement les choses. Mais ça, c'est une autre question. Mais il y avait tout un mouvement de professionnalisation ça s'appelait plus professionnalisation qu'insertion professionnelle à l'époque, de professionnalisation des cursus à l'université qui commence dès le milieu des années 70, qui s'intensifie en fait dans les années 80, et qu'on retrouve à ce moment-là sous la forme de l'insertion professionnelle. Mais quelque part, pour moi, c'est plus l'aboutissement d'un mouvement que véritablement quelque chose de nouveau, même si il est important, et symboliquement, de voir que la direction générale de l'enseignement supérieur devient à ce moment-là direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle. On crée aussi dans les universités des missions d'insertion professionnelle. Il y avait même eu l'initiative qui a depuis été abandonnée de créer un classement des universités selon le niveau d'insertion professionnelle de leurs étudiants.
Mais quand on entend le discours de Christine Nolleduc, présidente de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, diffusé en début d'émission, elle en parle d'elle-même, de sa mission, justement, de cette mission de permettre aux étudiants de son université d'être insérés professionnellement. C'est une chose qui a été saisie, justement, par les directions d'université ?
Mais je pense que c'était là aussi saisi depuis bien avant la LRU. Oui, peut-être qu'on n'utilisait pas ce vocabulaire-là, mais il y avait cette idée quand même de former les étudiants, les métiers à des métiers, enfin de les insérer professionnellement. Et je pense que il y a eu tellement de critiques là aussi des universités sur le fait qu'elles n'inséreraient pas leurs étudiants, qu'il y a eu une réaction là aussi contre cela pour montrer qu'effectivement les universités ne sont pas des fabriques à chômeurs. Non, et ça depuis longtemps.
L'autre point que vous développez, un point passionnant, vous expliquez que les universités sont devenues, redevenues en réalité des acteurs à part entière de l'enseignement universitaire français, que ces établissements-là désormais sont peut-être le croisement qui organise l'ensemble du système.
Alors ça, c'est lié à l'histoire des universités françaises. Hein. On oublie souvent qu'elles ont pratiquement disparu. Les universités en tant qu'établissement, pas les facultés, mais les universités en tant qu'établissement ont disparu.
Quelle distinction il faut la rappeler entre faculté et université?
Oui, c'est très intéressant que vous posiez la question. C'est une question qu'on poserait jamais à l'étranger, par exemple. Hein. Donc la faculté, c'est vraiment le lieu disciplinaire, enfin organisé discipline par discipline. La faculté des sciences, la faculté des lettres, la faculté de droit, où on va avoir une spécialité, la plupart du temps, disciplinaire. Entre 1793 et 1896, il y avait plus d'universités au-dessus des facultés. Hein, donc, dans les autres pays du monde, dans les universités, on trouve aussi des facultés à l'intérieur des universités. Mais le niveau important, c'était l'université. On n'en a pas eu pendant presque un siècle. On les a recréées en 1896, mais elles n'avaient pratiquement pas d'existence, ce qui fait que, alors, dans la longue marche des universités, je parle de la République des facultés jusqu'en 1968. En 1968, on recrée des universités, on met à la tête des universités des présidents élus, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc il y a eu toute une reconstruction de l'idée d'université. Et d'ailleurs, en France, on continue à dire qu'on va à la fac. On dit rarement qu'on va à l'université. Donc, il y a quelque chose qui est présent depuis très très longtemps. Et quelque part, la loi LRU, de ce point de vue-là, comme d'ailleurs la loi de 84 avant elle et la loi de 1968, essaye de donner plus de poids au président d'université pour justement faire exister ce niveau université.
Cette tendance
qui n'existait pas.
Cette tendance à la différenciation que vous décrivez, cette tendance de long terme, hein, mais qui s'est accélérée au mi-temps des années 2000, est-ce qu'il concerne l'ensemble des années étudiantes où il se focalise, il est même peut-être plus important, plus prégnant sur le niveau master, bien plus que sur le niveau licence?
Oui, je pense que c'est là que les évolutions risquent d'être assez fortes à l'avenir, et en particulier si les budgets ne sont pas là, parce que la plupart du temps, les étudiants s'éloignent peu de leur domicile familial pendant les années de licence. Donc, je pense que c'est pas tellement au niveau de la licence qu'on va voir de grands bouleversements et que différenciation.
On étudie en licence là où l'on vit globalement.
Globalement. Alors avec Parcoursup, il est plus facile de changer et d'aller ailleurs, mais malgré tout, globalement, c'est ce qui se passe. En revanche, au niveau du master, c'est là qu'on a le plus de redistribution géographique, et le risque est. Mais c'est un risque qui est déjà présent, c'est de voir les étudiants quitter des universités qu'ils considèrent comme moins prestigieuses que d'autres et d'aller vers les masters d'universités plus prestigieuses. Ou de voir des universités qui ont du mal à attirer des étudiants de master, avoir des étudiants de master qui sont moins intéressants pour eux que ceux qui sont partis.
Pour les étudiants, toujours, comment cette tendance, ces évolutions au long cours, là aussi, ont-elles été perçues par eux? Est-ce que l'idéal aussi peut-être égalitaire des universités françaises, de l'université française, a été abîmé du point de vue des étudiants par ce type de dispositif et de discours?
Ça, je ne suis pas sûre que ça ait abîmé l'image des universités. En revanche, le discours général sur l'université, parce que très rare, enfin, il est très rare que les gens fassent la différence dans leur discours entre les IDEX, les ICITE, et sans le citer.
C'est assez technique.
Je dois dire
oui.
que j'ai même entendu, voilà, je suis complètement d'accord avec ça. J'ai même entendu un ministre une fois me poser la question. C'est quoi un IDEX? Évidemment pas le ministre de l'enseignement supérieur, mais j'étais très étonnée qu'un ministre ne sache pas ce que c'était qu'un IDEX. Donc voilà, je pense que ce vocabulaire-là, il n'est pas très bien connu. Et donc je ne pense pas que ça abîme l'image de l'université. Ce qui abîme l'image de l'université, c'est le discours général qu'on tient sur les universités. Et ça, ça se traduit par un mouvement vers les institutions privées qu'on a vu de manière très nette au cours des dernières années. Donc c'est vrai que les universités continuent à accueillir 54% des étudiants en France, mais c'est vrai aussi, donc il y a toujours une augmentation du nombre d'étudiants qui suivent leurs études à l'université, mais ça a tendance à stagner et ce pourcentage a tendance à se réduire.
Merci beaucoup Christine Musselin de ces éclairages, de ces analyses. Merci également à celles et ceux qui ont préparé cette émission, Bruno Barada, Rodi Eken, Inès Bouffartigue, Sébastien et Léa Racine à la réalisation.